France Inter.
L'écrivain, critique littéraire et académicien Antoine Compagnon vous a fait passer sur la chaîne des étés avec Montaigne, Colette, Pascal et Baudelaire, que l'on retrouve aussi dans plusieurs de ses ouvrages ou hommages, parmi lesquels figurent aussi des personnalités moins illustres, telles que l'historien de la littérature et critique littéraire Ferdinand Brunetière, l'historien essayiste et ancien professeur au Collège de France Bernard Fay, ou encore, un peu plus renommé, Georges Blin, spécialiste entre autres de Stendhal et Baudelaire. Antoine Compagnon semble ne rien avoir à envier à l'érudition de Blin, dont la biographie intellectuelle est spectaculaire. Né à Bruxelles, il a notamment enseigné la littérature à l'Université de Columbia, à la Sorbonne et au Collège de France. Auteur d'ouvrages de référence tels que Le démon de la théorie ou Les anti-modernes, il vient de publier chez Gallimard Déshonorer le contrat, Roland Barthes et La commande, sur celui dont il fut l'ami et qu'il connut de 1974 à sa mort en 1980. Un ouvrage passionnant sur le rapport à l'écriture du sémiologue dont la quasi-totalité de la production littéraire fut motivée par des sollicitations extérieures. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Antoine Compagnon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Mais de venir ici. Je suis descendu à la station de métro Bir Hakeim, j'ai traversé le pont, parce que j'étais en avance, et il n'y a rien de plus beau que de traverser un pont de Paris, un jour ensoleillé, comme aujourd'hui. Bon, j'en aurais presque oublié notre rendez-vous.
Bah écoutez, non. Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud? Alors, quelle température fera-t-il quand on va sortir de ce direct?
Eh bien, il fera, je pense, 28 degrés, quelque chose comme ça. Il fait très chaud, oui.
Bon. Je vais rester ici pendant un an ou deux. Vous êtes né à Bruxelles et vous avez vécu dans différents pays puisque votre père était militaire, en Tunisie, en Angleterre, aux États-Unis. Que gardez-vous de toutes ces zones géographiques?
Ben, le goût du voyage, le goût de la diversité. En vérité, je n'ai pas trop connu la France avant l'adolescence. Et bon, c'est une bonne expérience. Je suis français, mais je suis aussi un citoyen du monde.
Dans votre enfance, votre père était souvent absent et avec votre mère, vous écoutiez la radio et elle vous lisait des histoires.
Absolument, oui, c'est les années 50. Hein. Je suis un enfant des années 50, donc il n'y avait pas de télévision. Il y avait la radio, je me souviens d'écouter le général de Gaulle en 1958. Mon éveil politique date de 1958. Je me souviens parfaitement de tous ces discours entre 58 et 62. Et ben, ma mère nous racontait des histoires parce que mon père n'était pas là. Mon père, à l'époque, était en Algérie. C'était la période de la guerre d'Algérie. Et donc, c'était une enfance où on était les enfants avec ma mère.
C'est elle qui vous a appris à lire?
Ben oui, c'est vrai. C'est avec elle que j'ai appris à lire pendant l'été 1955, avant d'entrer en classe qui s'appelait la classe de 11e à Tunis, à la rentrée de 1955. J'avais beaucoup de mal avec le G, le GU. Je peux avouer que je ne maîtrise toujours pas en français le G. J'hésite toujours. On peut être académicien, professeur au Collège de France et avoir des invalidités sans être dyslexique, mais donc, des lettres difficiles à maîtriser.
C'était dur pour vous de lire le titre de votre livre de lecture, Marlaguette et le loup.
Ah ben oui, j'ai dû raconter ça quelque part.
Bien sûr.
Vous le savez. Ah oui, Marlaguette, je me souviens qu'avec ma mère, donc à l'été 55, je lisais Marla Juette. Et ma mère était furieuse parce que j'allais entrer, c'était au mois d'août et en septembre, ben j'allais en classe.
À 14 ans, vous avez perdu votre mère qui est morte de maladie et vous avez perdu la foi. Est-elle jamais revenue depuis?
Non, elle n'est pas revenue. Bon, j'ai eu une enfance catholique, comme beaucoup de Français, et même j'ai eu une enfance pieuse. J'ai été enfant de cœur, comme beaucoup de petits Français de l'époque. Je servais la messe, j'avais, oui, une certaine foi. Mais cette foi, je me souviens parfaitement du jour et du lieu où je me suis dit que je n'avais pas la vocation. C'était déjà une étape qui était franchie. Et puis, 2 ans plus tard, je me suis dit que j'avais pas la foi non plus. Et voilà, et c'était terminé.
Vous êtes dit à ce moment qu'il n'y avait aucune raison de croire à un autre monde ou à une autre vie, et vous ajoutez, la mélancolie n'est pas un mauvais sentiment, elle rend actif. Pas toujours, mais chez vous, oui.
Ben, je crois que les gens qui ont un peu de mélancolie, oui, ce sont eux, je pense à Montaigne, hein. Montaigne, grand mélancolique qui a été... Pour moi, ben, je suis toujours un peu avec Montaigne. La mélancolie, c'est un peu l'énergie du désespoir. Hein. Et bon, les gens qui sont mélancoliques sont des gens hyperactifs, souvent.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Que pensez-vous du beefsteak pommes frites ?
Ah oui, j'en ai parlé aussi, parce que c'est un... Ça, vraiment, tout le monde, je crois, peut être d'accord que c'est un grand mythe national français. Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps, enfin, il y a déjà assez longtemps, un film d'espionnage français où, à un moment, la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon beefsteak. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit « Et moi qui lui ai donné de mon beefsteak ». Il s'agit vraiment que le beefsteak fonctionne ici comme une sorte de symbole patriotique de la France. Oui.
C'est Roland Barthes qu'on entend sur la RTF en 1957, l'année de publication des Mythologies. Antoine Compagnon, vous l'avez connu de 1974 à sa mort en 1980. Vous l'avez évoqué dans votre ouvrage Les Antimodernes, paru en 2005. Vous lui avez consacré le livre L'âge des lettres, paru en 2015. Et vous publiez l'ouvrage dont on va parler ce soir en 2025. Alors avez-vous un pacte secret avec vous-même consistant à écrire sur Roland Barthes tous les 10 ans ?
Ah, j'avais pas constaté cette régularité. Bon, c'est peut-être ma dernière intervention sur Barthes. Dans ce livre-ci, en vérité, il vient en retard parce que il est fondé sur des conférences que j'avais faites en 2015 lors du centenaire de sa mort. Et comme maintenant j'ai un certain âge, dans mon ordinateur, j'ai des dossiers ouverts de recherches inabouties, de travaux inaboutis. Et je me dis, ben, il faut aller jusqu'au bout. Et là, j'ai décidé de mener à terme ce travail qui m'attendait. Ben voilà, donc il est sorti maintenant. Il aurait pu sortir il y a 10 ans.
Mais il y a 10 ans, c'est bien ce que je disais, chaque décennie, un texte sur Barthes.
Voilà, voilà. Mais attendons encore 10 ans, mais peut-être, oui. Si je suis encore vivant.
Mais oui, je vous, s'il vous plaît, soyez-le. Comment décririez-vous son caractère ?
Mélancolique, on parlait de la mélancolie tout à l'heure. Barthes était un grand mélancolique, et du coup quelqu'un qui a beaucoup publié et beaucoup travaillé pour soigner sa mélancolie.
Il s'y est mis assez tard, vers 40 ans, à publier.
Il s'est mis assez tard parce qu'il a eu une vie difficile. Hein. Il a commencé une vie normale d'étudiant, de très bons lycéens à Paris et d'étudiant à la Sorbonne. Mais il a été malade de la tuberculose et la tuberculose lui a fait perdre une bonne douzaine, plus de 12 ans de sa vie, passée dans des sanatoriums. Toute la période de la guerre, au fond, toute la période de, si je pense à ma propre vie, entre 20 et 30 ans, c'est la période où on a le plus d'énergie, le plus d'envie de saisir le monde et les choses. Et pendant cette période de sa vie, eh bien, c'était une parenthèse pour lui. D'où ce départ un peu retardé et ses difficultés, même difficultés financières du début de sa carrière.
Cela a dû forcément façonner aussi sa sensibilité.
Oui, je pense d'une part que c'est la maladie, c'est un grand temps de lecture. Hein. Mettons 10 ans ou 12 ans en sanatorium, ça veut dire 10 ans ou 12 ans à n'avoir pas grand-chose à faire d'autre que de lire, dont beaucoup de liberté. Sans doute pas assez d'énergie pour écrire, mais une grande accumulation de matériaux, de quoi alimenter une vie d'écriture. On écrit, on lit beaucoup dans sa jeunesse, enfin, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu, ensuite on lit moins, on n'a plus le temps de lire.
Alors dans votre texte « Déshonorer le contrat », vous vous intéressez à l'ambivalence de Barthes par rapport à la commande, puisque à la fois il s'est toujours plaint d'être accablé de demandes, il disait que la gestion coûtait temporellement parlant autant que la création, il avait le fantasme de changer de vie, mais les commandes étaient aussi ce qui le stimulait le plus pour produire des textes, c'était le remède et le poison.
Voilà, Barthes dit « Je n'ai écrit que sur commande », dit-il, sauf mon premier article, article qu'il a donné à Nadeau pour combat après la libération. Mais après cela, il affirme que tout a été écrit sur commande. Peut-être qu'il exagère un petit peu, mais il est vrai que si l'on prend tous ses livres, on constate que c'est à peu près toujours le cas. Il avait besoin de cette commande, mais il avait aussi besoin de résister à la commande. Et je pense que c'est, au fond, la tactique qu'il a toujours adoptée, de répondre à des sollicitations, mais de trouver le moyen de détourner, de déjouer la commande pour faire un peu autre chose. Pas trop autre chose, parce que ça serait refusé, mais de trouver jusqu'où ne pas aller trop loin.
Alors ça, on va y revenir, au fait de détourner la commande, mais Barthes répugnait à blesser par des refus, tout en courant après le temps, et vous écrivez, Antoine Compagnon, qu'il fonctionnarisait l'écriture. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ben, ça signifie qu'il se mettait tous les matins à sa table de travail à 9h, et que jusqu'à, mettons, 1h de l'après-midi, il écrivait. Il était à son bureau. Ensuite, il déjeunait, puis l'après-midi, il avait une vie très réglée. L'après-midi, il avait des activités plus distrayantes, il jouait du piano, puis à partir de la fin de l'après-midi, il voyait des amis. Mais il avait une vie très régulière de fonctionnaire de l'écriture. Mais peut-être que nous avons... Écrire, ça prend beaucoup de temps. C'est un gros travail. Là, je viens de finir un manuscrit, je me dis, mon Dieu, vais-je me lancer dans un autre manuscrit ? Parce que c'est souvent les gens qui n'écrivent pas, les lecteurs, ne voient pas la quantité de travail que représente la littérature. Il suffit de regarder, je dis, les manuscrits de Proust ou les manuscrits de Céline pour constater combien cela prend d'énergie et de temps.
Mais là, vous prenez tout de même deux modèles difficiles à dépasser.
Oui, mais Baudelaire disait la même chose. Baudelaire, que nous nous représentons comme le bohème par excellence, était un homme de discipline,
et pourtant,
d'hygiène.
Mais vous écrivez dans Déshonorer le contrat que Baudelaire menait une vie déréglée, qu'il aurait aimé avoir une discipline de travail, mais qu'il était un grand procrastinateur. Et je vous laisse nous dire ce que c'est que la crasse.
Il rêvait d'avoir la discipline qu'il voyait, par exemple, chez Delacroix. Il admirait Delacroix par cette régularité de fonctionnaire dans son travail, tous les jours. Mais il suffit de lire le journal de Delacroix pour voir qu'il y avait ce rythme très régulier. Alors, Baudelaire était un procrastinateur. Maintenant, c'est un mot anglais, mais c'est un mot qui vient du français, comme la moitié des mots anglais, la procrastination. On la connaît bien, c'est la maladie de Swann dans La recherche du temps perdu. Roland Barthes appelait ça faire l'autruche. Faire l'autruche, c'est ne pas faire aujourd'hui ce que l'on pourra faire demain ou après-demain. Remettre à plus tard. Baudelaire souffrait de cette maladie. Alors c'est son ami Constantin Guis, qui était anglophile, qui parlait de la crasse, pour parler de cette procrastination mélancolique. À quoi bon ? À quoi bon faire aujourd'hui ce que l'on peut remettre à plus tard ?
Et vous en souffrez aussi ?
J'en souffre. Il convient de dominer cette crasse, cette mélancolie, cette tendance à faire l'autruche ou à remettre à demain ce que l'on n'a pas très envie de faire aujourd'hui.
Et Roland Barthes n'avait pas ce problème ?
Ah si, il avait ce problème.
Ah.
Il avait ce problème, évidemment, il avait ce problème. C'est bien pour la raison pour laquelle il lui fallait se donner une discipline. Il était toujours en retard. Et je raconte les cas de commandes, justement, à la date où le manuscrit devrait être remis, il n'a pas commencé. Et vous savez, on se trouve souvent dans cette situation, comme... Moi, je dis que j'aime pas les commandes, mais il m'arrive d'en avoir, tout de même. Et on se trouve toujours à la date où on devrait avoir écrit l'article, ou ce qui nous a été commandé, la page est blanche.
Oui, mais vous faites fort, puisque vous sortez vos livres sans avoir signé les contrats.
Oui, ça c'est vrai que moi je supporte mal les contrats, mais c'est un peu une maladie équivalente à celle de Barthes. Barthes avait besoin de commandes pour les détourner, et moi lorsqu'on me donne une commande, eh bien, ça ne me donne plus envie. J'ai l'impression que c'est un devoir. Mais c'est un peu aussi le sentiment qu'avait Barthes, puisqu'il était obligé de détourner pour ne plus être dans le devoir. Vous savez, les écrivains sont des éternels écoliers. On fait toujours des rédactions, comme à l'école. On est écrivain parce qu'on n'a pas su quitter l'école. Et on se donne des rédactions à soi-même, ou alors les éditeurs vous donnent vos sujets de rédaction. Mais c'est comme à l'école. Une fois qu'on vous donne un devoir, on n'a plus envie de le faire.
Mais alors, votre premier contrat vous a coûté beaucoup, tout de même, puisque vous avez fourni une bonne centaine de notices anonymes d'histoire littéraire pour le Thésaurus de l'Encyclopédie Universalis. Et vous dites, Antoine Compagnon, que c'est ce qui vous a permis de financer le début d'une psychanalyse et de vous initier à l'écriture au kilomètre.
Ben oui, c'est vrai que je suis très reconnaissant au professeur que j'avais, avec qui j'avais fait une maîtrise de lettres, Jean-Yves Pouilloux, de m'avoir introduit à l'Encyclopédia Universalis. C'était vers 1972-73. Et voilà, pour moi, c'était un apprentissage. Je crois qu'il est important pour tout le monde d'avoir appris à écrire, comme je dis, à la ligne. Quand j'écrivais cela, j'étais payé à la ligne. Je pense que c'est une très bonne expérience d'avoir été payé à la ligne, parce qu'on mesure justement tout le prix de l'écriture. C'est un peu ce que font les journalistes, c'est un peu ce que font... on est tous un peu passés par là.
Vous avez intitulé une conférence « L'écriture, ça paye ».
Oui, l'écriture, ça paye. C'est une conférence que j'avais faite à... La littérature, ça paye.
Oui, ça paye.
C'est une conférence faite à HEC pour dire aux étudiants d'HEC, aux élèves, que la lecture était un bon investissement. On ne sait jamais quand ça sera rentable, mais c'est rentable un jour. Donc, oui, je crois que c'est bien d'avoir écrit au kilomètre, à la ligne, parce qu'on sait ce que c'est qu'écrire après.
Il y a tout de même certains paradoxes dans l'écriture. Vous citez Lacan, Antoine Compagnon, qui dit que toute commande ne peut qu'être déçue, jamais véritablement exaucée comme telle. Ça fait penser, vous savez, à ces histoires où on formule un vœu à un génie, et il l'exauce, mais littéralement, donc en fait on se retrouve floué.
Floué.
Oui.
Alors c'est ça, c'est un jeu très subtil auquel Barthes jouait avec ses éditeurs ou ses commanditaires. Il ne répondait pas à la commande ou à la demande, mais c'est ce que j'essaye de dire. Il essayait toujours de trouver ce que le commanditaire désirait vraiment. Il ne faut pas répondre à la demande, il faut trouver le désir de l'autre.
Même avec La Chambre claire, où on dirait un peu un pied de nez, une raillerie, puisqu'on lui demande un livre...
demande un livre sur le cinéma... Il dit qu'il n'aime pas le cinéma et qu'il écrira un livre sur la photographie. Puis il ajoute qu'il n'aime pas la photographie non plus et qu'il écrira donc un livre sur les photographies de presse. Il n'aime pas la photographie d'art. Puis finalement, il nous donne un livre sur une photographie de sa mère enfant, mais il ne nous la donne pas. Donc nous ne voyons pas cette photographie. Donc tout le monde est floué, mais le livre est un chef-d'œuvre. Et c'est au fond ça, la tactique. Un livre ne doit jamais répondre à une demande. Il doit répondre au désir inconnu de celui qui faisait la demande. Mais c'est un peu ça, l'amour aussi.
Est-ce que Barthes souffrait de ne pas réussir à faire son grand roman? Il rêvait d'une Vita Nova. Et vous citez Flaubert qui dit qu'il est stupide de publier un roman. Et vous dites aussi qu'il manquait à Barthes ce grain de folie pour faire ce roman.
Alors, bon, Barthes est mort prématurément. Il est mort d'un accident en 1980. Et depuis la mort de sa mère, depuis 2 ans, il rêvait d'une autre vie, Vita Nova. Vita Nova, on oublie souvent que Nova, dans Vita Nova, en latin, ça veut dire dernière. Hein. C'est la dernière vie. Hein. C'est nouveau au sens de dernier. Et il se demandait depuis 2 ans comment vivre sa dernière vie. Et il n'avait plus envie d'écrire des articles. Mais moi, j'en suis un peu à cette étape aussi. On n'a plus envie du train-train. À partir d'un certain âge, on a envie d'autre chose. Il y en a qui réussissent leur Vita Nova. Il y en a qui ne la réussissent pas. Bon, c'était le sujet du livre que j'ai appelé « La vie derrière soi », il y a quelques années, « La Vita Nova ». Barthes, que dire ? Il est mort prématurément, donc. Il était très jeune, hein. Il n'avait que 65 ans. Il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite du Collège de France. Et qu'aurait c'était sa Vita Nova s'il avait vécu plus longtemps, peut-être aurait-il fait ce chef-d'œuvre qu'il a laissé à l'état de bribes. On ne peut pas vraiment se prononcer.
La vie est d'une telle insolence. Je n'ai jamais pu apprendre la 100e partie des tours qu'elle se permet. Il faudrait un temps fou. La vie est trop courte pour l'art. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour durcir notre coquille. Dure et brillante. Mais la chose diabolique, c'est que souvent, elle est brillante sans être dure.
Les Sœurs Brontë de Téchiné, film de 79, dans lequel Roland Barthes joue William Makepeace Thackeray. Et ça, je l'ai appris grâce à vous, Antoine Compagnon. J'ai aussi appris grâce à vous qu'il avait écrit dans la revue du Sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire du Touvet et qu'il avait rédigé la préface d'un ouvrage des frères Bogdanov en 76.
Et oui, bah, je me souviens bien du tournage de ce film. Je me souviens bien d'une fête qui a marqué la fin du tournage. Et bon, il y avait Isabelle Adjani avec laquelle je me souviens d'avoir dansé ce jour-là. Alors, vous entendez la voix de Barthes, c'est pas sa voix très naturelle, là, parce que là, il joue dans le film. Et bon, c'était un moment où, en plus, il était dans le chagrin, c'était après la mort de sa mère, et il n'était pas dans son meilleur état à ce moment-là. Bon, c'était une période difficile pour lui, donc voilà, on ne sait pas s'il y aurait eu un chef-d'œuvre dernier.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Qu'est-ce que vous faites ? J'écris. C'est intransitif. Et c'est intransitif pourquoi ? Enfin, voilà mon explication. C'est qu'écrire est une perversion, je l'ai dit au début, et la perversion est intransitive. La figure la plus simple et la plus élémentaire de la perversion, c'est de faire l'amour sans procréer. Eh bien, l'écriture est intransitive dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle ne procrée pas. Elle ne délivre pas des produits. Et l'écriture est effectivement une perversion parce qu'en réalité, elle se détermine du côté de la jouissance. C'est cela qu'il y a de nouveau, disons.
Barthes sur France Culture en 73 avec Maurice Nadeau. Antoine Compagnon, dans votre ouvrage, on apprend que Barthes proclamait « la perversion rend heureux ». Mais alors pour comprendre, il faut que vous rappeliez le sens freudien et lacanien « libéré ». De ce mot.
Barthes parlait de perversion un peu comme tout le monde dans ces années 70, comme Gilles Deleuze.
Qu'il a esthétisé.
Qu'il esthétisait. Enfin, c'était. Il y avait beaucoup de propos sur la perversion qui, au fond, ne la considéraient pas comme quelque chose de psychiatrique et de dramatique, et qui était avant tout littéraire. Et artistique. Et le modèle de la perversion, je crois que c'est plutôt ce qu'on appellerait la perversité aujourd'hui. C'est, vous savez, le conte d'Edgar Poe,
le démon de la perversité.
The Perverse, est traduit par Baudelaire. Donc, cette perversité, Barthes l'a très bien définie ici, c'est au fond la dépense improductive. C'est Georges Bataille qui parlait de dépenses.
Mais la jouissance.
C'est la jouissance. L'écriture, il le dit, est de l'ordre. Bon, il avait publié ce texte qui s'appelle Le plaisir du texte. Il distinguait pas vraiment plaisir et jouissance. Vous voyez toute cette insistance sur le fait que l'écriture est hors du circuit économique, hors de l'économie productive, hors de l'économie sexuelle, pas de reproduction. Et l'écriture, Barthes insiste beaucoup sur cette sorte de gratuité de l'acte d'écrire. Dès que l'écriture entre dans le circuit économique, ben, il ne parle plus d'écriture, il parle d'écrivance. Et l'écrivance, ben, c'est pas bien pour lui.
Alors, Deleuze parlait de la perversion en ce sens dans son analyse du roman de Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, livre auquel vous avez consacré votre mémoire de maîtrise de lettres. D'où la question suivante, êtes-vous pervers, Antoine Compagnon ?
Au sens de la petite perversité, sans doute. C'est-à-dire que j'ai une formation d'ingénieur. La productivité, ça aurait été pour moi de construire des ponts, puisque j'étais ingénieur des ponts et chaussées. Bon, j'ai renoncé à construire des ponts. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'un de mes camarades de promotion lui avait confié un jour « Ah, compagnon, il est perdu pour la France ». Vous voyez, je suis perdu pour la France parce que je n'ai pas produit des ponts, des usines, que je me suis mis un peu à l'abri du circuit économique. Même si les livres, l'édition appartient, bien entendu, la librairie fait partie de l'économie, il y a une économie de la culture. Mais vous voyez comment Barthes veut absolument se ranger hors de cette économie de la culture.
J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour.
Belle de Jour ?
Comme vous ne venez que l'après-midi.
Je veux savoir ton nom.
Belle de Jour.
Pourquoi la nuit tu n'es pas là ?
D'où elle sort, celle-là ?
Qui ? Belle de Jour ?
Oui. Elle a des demandes.
Belle de jour. C'est original.
Belle de jour, c'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. C'est le conflit entre le plus tendre amour et l'exigence implacable des sens.
Et pourquoi ?
Pour de l'argent, tout bêtement. L'immense majorité des femmes qui se vendent le font hélas pour de l'argent.
Antoine Compagnon, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le contrat idéal, le modèle de bon contrat selon Barthes, serait celui de la prostitution et celui de Belle de Jour, le film de Buñuel dont on entend la bande-annonce ?
Alors oui, Buñuel, bon, c'est toute une époque. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire des films de cette nature. On est passé dans un point de vue moral à un autre temps. Et tous les propos de Barthes sur la prostitution seraient en effet difficiles à énoncer aujourd'hui. Mais Barthes voyait dans la prostitution justement le modèle du bon contrat, c'est-à-dire un contrat sans lendemain, sans pesanteur, puisque on s'entend sur une transaction et qu'il n'y a ni avant, point de lendemain, comme disait Vivant Denon. C'est ça, la prostitution. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait un peu de mal à soutenir ce point de vue. Et en plus, lorsque Barthes raconte des épisodes de prostitution, ce que je constate, c'est qu'ils sont toujours ratés. Ils mènent à des échecs, quand il a affaire à des jeunes gens. Ça se passe en général assez mal. Et quand il donne des exemples qui sont ceux de Sade, ça se passe aussi assez mal. Donc c'est moi qui donne l'exemple de Buñuel, parce que dans Buñuel, on a au fond une prostitution réussie, qui est une femme du monde qui a une certaine perversité, justement,
et qui choisit
dans son
de
contrôlement,
le faire.
Qui choisit de le faire. Qui choisit de le faire, c'est un luxe. On se retrouve dans cette économie du luxe.
Pour elle, oui.
Et de la dépense, quoi.
Et donc Barthes se fantasmait libertin, sans réussir.
Barthes, je pense qu'il ne réussissait pas à se retrouver dans cette position de véritable perversité.
Oui, le deuil antérieur qui vient juste après la seconde main, par une sorte d'inversion. C'est un texte qui se construit à travers une série de fragments, et ces fragments portent tous sur la mort et sur le deuil.
Alors vous en lisez un petit exemple, comme ça, une citation.
Oui, je vais lire quelques fragments.
C'est parce qu'il y a en moi l'imminence de la mort.
Est-ce que j'en ai peur? Non, parfois même je la désire. Mais je dois me hâter, faire ceci ou cela, bâclé. La mort accompagne chacun de mes gestes. Chacun de mes gestes est pénétré de l'idée qu'il risque de se suspendre avant terme. C'est qu'il n'y a jamais de terme désirable, toujours l'urgence. C'est toujours comme si c'était la dernière fois. Je veux dire que chaque geste est grave, chaque pensée, chaque parole, parce qu'il se pourrait que je n'ai plus l'occasion de les réaliser. Je me regarde faire, je ne cesse d'être le spectateur de ma propre agonie.
Antoine Compagnon, est-ce que vous reconnaissez l'Antoine Compagnon de 1979 au micro d'Alain Weinstein sur France Culture ?
Écoutez, ça me touche beaucoup d'écouter ça, parce que je pense que c'est la première fois que je suis venu à la radio, à France Culture, invité par Alain Weinstein, qui est devenu par la suite un ami. Bon, je reconnais à peine ma voix. Et ce livre que j'ai publié donc en 1979, qui était un livre de fragments où je parlais en effet des deuils que j'avais, qui m'avaient frappé jusque-là.
Votre mère, une amie qui
s'est
suicidée.
Une amie qui s'est suicidée. Il y a eu d'autres morts qui m'ont frappé depuis. Et bon, ça. Oui, c'est. Oui, finalement, je me reconnais dans ce que nous avons entendu là.
Quelque chose d'assez frappant. Vous avez passé votre vie à partager avec les auditeurs, avec les lecteurs, ce qui vous avait enrichi, ce qui vous a fait mieux comprendre l'existence dans la littérature. Et vous avez compris ce qui allait se passer quand votre mère était malade et allait mourir, grâce à Stendhal, au rouge et au noir.
Oui, j'ai raconté ça dans un livre récemment, parce que bon, j'avais 14 ans, et c'est l'âge où on est vraiment enthousiasmé par ce qu'on lit, on est passionné par ses lectures. Et là, j'étais dans Le Rouge et le Noir pendant cet été 1964. Et c'est au milieu de la lecture de Rouge et le Noir que j'ai compris que ma mère était en train de mourir, qu'elle mourrait deux mois plus tard. Donc ça a été à la fois, c'est une scène très mémorable parce que à la fois j'étais dans la plus grande passion de lecture. Et puis, en même temps, dans la réalité de la vie. Et les deux sentiments, disons, s'exaltaient mutuellement. C'est-à-dire que ça permettait, au fond... C'est pourquoi je dis que la littérature permet de vivre tout instant plus intensément, avec une plus grande conscience de ce que l'on est en train de vivre. Avec la littérature, on vit plus intensément tout ce qu'on vit. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. Good, good, good.
Antoine Compagnon, vous avez choisi pour ce soir The Beach Boys, Good Vibrations. Pourquoi ?
Ben parce que d'abord, Brian Wilson vient de mourir, c'est ça qui m'a fait penser à cette chanson, parce que c'est une chanson extraordinaire, hein, qui est un des... c'est du grand art, c'est très compliqué. Et c'est pour moi l'emblématique de l'année 1966, et l'année 1966 est l'année tournante dans ma vie, et je pense que c'est l'année tournante dans la France moderne également. Donc j'avais écrit un livre... La classe de Réto qui se passait en 1966. Puis je viens de finir un manuscrit sur l'année 1966.
Donc, vous étiez dans un internat militaire ?
À l'époque, 65-66, j'étais dans une école militaire, oui. Oui, oui. Mais donc pour moi, c'est l'année miraculeuse de la France moderne. Et donc cette chanson, elle est très emblématique de cela.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi de parler de Matisse et Marguerite, le regard d'un père au Musée d'Art Moderne de Paris.
Parce que je suis allé voir cette exposition il y a quelques semaines, que je l'ai trouvée très belle. Parce que j'aime beaucoup Matisse, et justement, j'ai une commande pour écrire quelque chose sur le dernier Matisse, la Vita Nova. Et,
la Vita Nova encore ?
La Vita Nova, la dernière vie de Matisse. Hein, c'est des papiers découpés, la chapelle de Vence. C'est justement ce que j'appelle le sublime sénile. Quand quelqu'un se dépasse dans les dernières années de sa vie, c'est ce qu'a fait Matisse. Et alors l'exposition est très bien parce que c'est sur sa fille. Et sa fille, c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup touché, hein, Marguerite Matisse. Bon, elle avait l'âge de ma grand-mère, hein, cette génération-là. C'est l'un des modèles les plus constants de Matisse. Et elle a toujours un ruban noir autour du cou parce qu'enfant, elle a subi une trachéotomie, elle a été malade. Et puis, ça a été une grande résistante. Donc, c'est un personnage remarquable qui est revenu de Ravensbrück, évadé de Ravensbrück. C'est une femme remarquable. Et bon, je conseille à tout le monde d'aller voir cette exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, au Palais de Tokyo, pour Matisse et pour cette grande femme.
Et j'imagine qu'il y a un catalogue pour ceux qui n'iront pas.
Il me semble que j'essaie de vous dire un rêve, que je fais un vain effort, parce que nulle relation d'un rêve ne peut communiquer la sensation du rêve, ce mélange d'absurdité, de surprise, de confusion, dans un effort frémissant de révolte, cette notion que l'on est prisonnier de l'incroyable, qui est l'essence même du rêve. Non, c'est impossible. Il est impossible de communiquer la sensation vivante d'aucune époque donnée de son existence, ce qui fait sa vérité, son sens, sa subtile et pénétrante essence. C'est impossible. Nous vivons comme nous rêvons, seul.
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, lu par Michel Lebris en 97 sur France Culture. Antoine Compagnon, j'aimerais qu'on évoque la préface que vous avez rédigée pour le livre posthume de Michel Schneider, qui fut votre ami, Ma vie avec Joseph Conrad, qui est un essai inachevé. Vous l'avez rencontré, Michel Schneider, sur les bancs de Sancy au tout début des années 70. Il était à l'ENA, vous, à Polytechnique, et vous avez eu une amitié de plus de 50 ans, parfois orageuse, souvent harmonieuse. Vous dites que c'était un peu le frère aîné que vous n'avez pas eu et aussi votre rival préféré.
Oui, on avait... Michel Schneider avait des relations compliquées avec tout le monde, avec tous ses amis avec ses enfants. Et donc, cette amitié n'était pas exceptionnelle. C'est vrai qu'on a été très liés à partir au tout début des années 1970. Puis on a suivi des carrière assez parallèle. Bon, il avait 5 ou 6 ans de plus que moi, donc c'est pour ça que je le compare un peu à un frère aîné. Il était un peu en avance sur moi lorsque j'avais 20 ans et qu'il en avait 25. Et très curieusement, je constate après coup qu'on a parlé des mêmes auteurs, Baudelaire, Proust, Pascal, Colette. C'est curieux, c'est curieux, c'est pas si fréquent. Moi, j'ai pas écrit sur Conrad, mais au fond, j'aurais pu. Et c'est vrai qu'on a eu des moments de brouille. Michel Schneider était quelqu'un de violent, qui a laissé une œuvre importante, hein, d'essais, de romans. Bon, j'aurais bien aimé qu'il fût élu à l'Académie française, je l'aurais retrouvé, puisqu'il y avait été un candidat à un moment. Mais voilà, donc par fidélité à cette amitié, j'ai rédigé cette préface que m'a demandé d'écrire sa famille, quoi.
Il n'approuvait pas votre rapprochement de Roland Barthes, et vous, Antoine Compagnon, vous avez tenté de le décourager de devenir psychanalyste en lui écrivant un texte que vous avez déposé à son bureau, et à votre grand étonnement, ça prouve aussi son intelligence, malgré le caractère difficile que vous décrivez, il l'a complété et vous avez fini par en faire un article à quatre mains.
Oui, on a écrit un article, ça devait être vers 1974-1975, au moment, vous savez, la psychanalyse était... Bon, vous disiez tout à l'heure que j'ai fait une assez longue psychanalyse, comme tout le monde à l'époque, qui m'a certainement été utile, puisque quand j'ai commencé une psychanalyse, j'étais ingénieur. Quand j'en suis sorti, j'étais devenu écrivain, professeur. Donc ça n'a pas été inutile. Pour Michel, ça n'a certainement pas été inutile non plus. Mais le jour où il m'a dit ben, « je vais sauter le pas, je vais devenir psychanalyste », c'est vrai que ça m'a beaucoup choqué. Moi, je me suis éloigné par la suite de la psychanalyse. J'ai complètement quitté ce continent. Et donc, oui, j'ai commencé un article où, justement, c'était sur l'économie de la psychanalyse, et pour lui montrer que c'était un marché, la psychanalyse. Donc, on parlait tout à l'heure du marché de la littérature, il y avait aussi un marché de la littérature, de la psychanalyse, et ça a été, pour moi, c'est l'un de mes premiers articles, pour lui aussi, c'est un article qui parlait de la psychanalyse d'une manière un peu inattendue, et qui a pas mal fait de bruit à ce moment-là.
Vous décrivez une amitié avec tout ce qu'elle peut comporter. C'est agréable justement de lire les fâcheries et les rapprochements, puisque souvent les amitiés profondes sont faites de ça. Et vous écrivez que vous ne lui avez jamais exposé votre inquiétude existentielle. Et c'est étonnant quand même pour un psychanalyste. Il aurait pu le recevoir.
Oui, mais c'est la réflexion que je fais dans ce texte, c'est sur ces amitiés entre hommes, où finalement... C'est pour ça que je dis qu'il y avait un rapport de fraternité, mais aussi un rapport de rivalité, sans doute. Et...
Vous parlez de stupide retenue de l'amitié entre
voilà,
les hommes.
Voilà, c'est ça. Je pense que les amitiés entre les femmes sont peut-être plus... s'exposent peut-être davantage leur fragilité. Mais quand on a été... Michel et moi, nous sommes des enfants de l'après-guerre. Nous avons reçu, comme on dirait, une éducation masculiniste. On a été élevés comme ça, à la dure. Je suis passé par des écoles militaires. Lui n'a pas eu une enfance très difficile. Michel est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile. Donc, oui, on était des durs.
Et maintenant, vous en revenez un peu ?
Quand je parle de Michel, je regrette que nous n'ayons pas davantage exposé l'un à l'autre nos fragilités. Dans le cas de Michel, évidemment, c'est trop tard, mais peut-être que c'est une leçon pour d'autres amitiés. On a été élevés comme ça, les hommes.
Mais maintenant, est-ce que vous vous attendrissez ?
Maintenant, je m'attendris, mais tous les vieillards s'attendrissent. C'est le défaut.
La qualité.
Les vieux ont la larme à l'œil facile.
Pas toujours.
Ah, vous pensez ?
Oui.
On peut devenir plus dur ou...
Oui.
En effet, mais bon, je ne pense pas que ce soit mon cas.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Qu'est-ce que je lis en ce moment ? Qu'est-ce que je lis ? Eh bien, j'ai lu récemment « Les Trois Mousquetaires », qui m'a beaucoup distrait et beaucoup plu. Là, je viens de finir aujourd'hui même un livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle « L'Accident », qui est un très beau livre qui raconte son enfance. Bon, c'est encore une histoire de génération, quelqu'un qui a juste l'âge de Michel Schneider. Très beau livre sur son enfance en Bretagne, dans un village de Bretagne, dans les années 50. Un livre sur cette France qui a disparu, en gros, depuis 1966. C'est l'année de la Révolution française.
Vous écrivez dans votre ouvrage, et ce sera ma dernière question, que les deux pôles de l'excellence dans les études littéraires sont pour vous Roland Barthes et Pichois. Que recommandez-vous aux auditeurs pour découvrir ce fameux Pichois ?
Avec Claude Pichois, c'était quelqu'un qui était un professeur. C'est l'éditeur de Baudelaire, c'est l'éditeur de Nerval, c'est l'éditeur de Colette, c'est un grand éditeur. Parce que c'est difficile de le recommander, puisque la Pléiade, nous l'avons remplacée en faisant une nouvelle Pléiade. Les professeurs sont destinés à disparaître.
Mais non, vous êtes pessimiste, mais on arrive à ce terme. Et j'ai plein de remèdes à la mélancolie pour vous. Merci beaucoup, Antoine Compagnon. Déshonorer le contrat, C'est chez Gallimard, chez le même éditeur, Ma vie avec Joseph Conrad de Michel Schneider. Et il est 21h, vous écoutez France Inter, donc j'abrège un peu, mais merci à l'équipe et à la technique Mathias Alléon. À demain, 20h10.